L'université inter-âge de l'ULB, le CEPULB, invitait le 22 octobre 2018 Guy Archer, professeur émérite de l'ULB et philosophe. Dans le cadre du cycle de conférences liées à la géopolitique, Guy Archer avait pris pour thème Trump, le populisme et l'avenir des démocraties libérales.
Alors, je dois vous parler aujourd'hui de ce phénomène du populisme et de son opposé, parce que c'est vraiment son opposé, la démocratie libérale ou la démocratie constitutionnelle, je vous définirai tout ça. Et évidemment, quand on parle de populisme, on ne peut pas éviter de mentionner Trump. D'abord, évidemment, parce que c'est un bon client, étant donné les outrances quotidiennes du personnage. Mais deuxièmement, plus sérieusement, parce que les États-Unis, c'est la plus grande démocratie du monde, la première puissance du monde, et qu'elle a à sa tête un leader qui coche les différentes cases du populisme. Je vais essayer de vous donner une définition, parce que, au fond, le populisme, ce sont des notions dont on parle tous. Ce n'est pas nécessairement des notions claires, c'est des notions qui représentent un certain type de phénomène qu'on essaye de comprendre, avec des peurs, avec des espérances, etc. Donc il faut essayer d'un petit peu clarifier les choses. Et vous voyez, vous verrez d'ailleurs que dans cette définition, bon, Trump est véritablement celui qui est le plus, qui correspond le mieux à la nature du populisme. Alors, je vais commencer par la notion. Quand on parle de populisme aujourd'hui, on en parle souvent, on en parle de façon négative. Peu se réclament eux-mêmes du populisme, ou ils le font par provocation, parce qu'on les a traités de tels. Mais, en général, c'est une notion qui est mal vue et qui est considérée comme une espèce de pathologie de la démocratie. Le mot lui-même n'est pas un gros mot en démocratie. Vous savez, ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est ce qui est correct pour toute la police, P-O-L-I-S, pour toute la cité, pour toute la communauté. Des choses qui, malgré toutes nos divergences, nous rassemblent, sur quoi on est d'accord. Donc évidemment, si quelqu'un parle de race supérieure ou parle de domination d'une église fondamentaliste et d'écraser les mécréants, on dira ça, c'est pas politiquement correct, ça n'a rien à voir avec nos valeurs, c'est pas ça qu'on veut. Populisme, ça vient de populus, qui est le terme latin qui veut dire peuple. Et donc, tant que le populiste dit « moi, je me réclame du peuple en démocratie, qui est le pouvoir du démos », c'est le même mot, mais en grec, il n'y a pas de quoi nous choquer. Surtout que le populiste a un argument. Pourquoi lui-même, tout à coup, en démocratie, qui est le pouvoir du peuple, se réfère-t-il au peuple? Parce qu'il considère qu'on a trompé le peuple, que le pouvoir appartient au peuple, mais qu'on le lui a volé. Prenez le discours, ce qu'on appelle « inauguration », donc d'entrée en fonction de Trump. Donc il a été élu début novembre 2016, et au début 2017, il entre en fonction, le 20 janvier. Vous savez, c'est au Capitole, là où se trouve le Congrès des États-Unis, et puis c'est devant l'immense mall, et il y a une foule moins grande que ce qu'il a voulu dire, mais enfin, il y a quand même une foule, et Trump fait son premier discours en tant que président. Pas un discours de meeting, un discours de président. Et au départ, c'est assez étonnant, c'est un discours qui avait été écrit par Steve Bannon, qui était son conseiller à l'époque, et qui est un homme d'extrême droite, qui a dirigé pendant longtemps le site internet Breitbart News. Allez sur internet et regardez, ce sont des sites qui sont des sites très très à droite et qui sont à la limite du racisme blanc contre noir. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont un caractère populaire, c'est-à-dire qui disent « les élites ont trahi le peuple, il faut faire appel au peuple ». Et on entend Trump dire, dans son discours, « il ne s'agit pas d'une transition normale, habituelle, entre un président démocrate, Obama, et un président républicain, Trump, donc d'un passage du témoin entre quelqu'un qui est un membre de l'élite démocrate à quelqu'un qui est un membre de l'élite républicaine ». Ça, ce serait rester dans les élites de Washington. Il s'agit, au contraire, de rendre le pouvoir au peuple. De rendre le pouvoir aux oubliés. À cette partie du peuple qui est oubliée et qui ne devrait pas l'être si le peuple, véritablement, doit avoir le pouvoir. Donc il y a, chez le leader populiste, on le voit dans l'entrée en fonction de Trump, il y a une connotation qui sonne plus ou moins à gauche. si on pense que ces oubliés, mais ce ne sont pas les seuls, sont ceux à qui il s'adresse et ceux chez qui il a gagné, c'est-à-dire ces ouvriers de ce qu'on appelle la Rust Belt, hein, de la ceinture de rouille au sud des Grands Lacs, dans les États où on croyait que les démocrates allaient gagner, Hillary Clinton et où lui a gagné, dans le Wisconsin, dans la Pennsylvanie, en Virginie-Occidentale, en Ohio, en Iowa, en Indiana, dans tous ces États-là, ce sont des anciennes régions industrielles, charbonnage, sidérurgie, automobile, etc. Et ce sont des régions qui ont été sinistrées par tout un ensemble de processus, certes la concurrence étrangère, mais aussi le changement des modes de production, et puis la crise financière de 2008 qui a eu des effets économiques et qui a aggravé les choses. Toujours est-il que ces gens se trouvent dans une situation qui est une situation très difficile et que Trump a fait beaucoup de démagogie en leur promettant la lune et que ces oubliés-là, ce sont des gens dont devraient s'occuper les démocrates et sûrement la gauche. Bon, c'est le public de la gauche. D'ailleurs, au début du discours de Trump, quand on entend les oubliés, etc., ça aurait pu être Mélenchon, hein, bon, au fond, hein. En plus, Mélenchon est aussi excité de Trump, donc ça ne change pas beaucoup. Non, mais c'est vrai, parce qu'il est à la fois, il se réclame de la République, je suis la République, il met son écharpe, etc. Et puis, sur l'autre image, on dit, allez camarades, enfonçons la porte. Bon, les deux sont possibles dans les stratégies politiques, mais les deux ensemble, peut-être pas. Bon, donc toujours est-il que c'était un discours plutôt qui pouvait apparaître comme un discours de gauche, parce qu'il s'adressait effectivement à des gens qui, disons, se trouvent dans une transition. Hein, tout le monde dit qu'on est dans une transition, que les métiers vont changer et que, donc, quelque part, il y a des régions entières qui risquent d'être dévastées, qu'il va y avoir peut-être, mais on n'en est pas sûr, de nouveaux boulots. C'est ce qu'on appelle en général le grand déversement. Alfred Sauvy appelait ça le grand déversement. Hein, il y a les femmes, avant l'invention du métier à tisser, il y a les femmes qui tissaient chez elles. Et puis bon, tout ça disparaît quand on a inventé le métier à tisser. Et puis ça continue comme ça. Mais on n'est pas du tout sûr qu'il y aura véritablement un déversement, c'est-à-dire que la perte de boulot sera compensée par autant d'autres boulots. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que ces autres boulots, ce n'est pas pour ces gens-là. Ce n'est pas pour un ouvrier qui a fait bien son travail, qui a 55 ans et qui tout à coup se trouve largué. Et donc, quelque part, la société doit faire quelque chose pour ces gens. Et c'est très difficile à faire dans la mesure où ça coûte très cher et qu'on ne sait pas très très bien comment l'aborder. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, Trump a une clientèle. Cette clientèle, il s'adresse à cette clientèle avec un discours de gauche sur les oubliés, sur ceux dont on ne tient pas compte, sur ceux dont les élites de Washington ne tiennent pas compte. Parce que le couple dont parle le populiste, c'est peuple-élite. Et vous allez voir que peuple est affecté d'un signe positif et élite d'un signe négatif, et qu'il y a à chaque fois, pour peuple et pour élite, une ambiguïté fondamentale, une confusion fondamentale que le populiste cache. Savamment. Alors, je dis pour le peuple d'abord, je vous ai dit la dimension sociale, socio-économique, donc les ouvriers de la Rust Belt, il n'y a pas qu'eux évidemment, c'est parce qu'ils sont concentrés là, et qui sont un électorat de Trump, et qui sont un électorat de gens qui disent que c'est jamais pour eux, que ce soit les républicains, les démocrates, etc., que quelque part la situation ne s'améliore pas pour eux, donc ils votent pour un nouveau type. C'est pas un nouveau type, il est dans les médias depuis 30 ans. Il est très connu, Trump. Il a sa Trump Tower sur la 5e avenue depuis les années 1980, etc. Bon, c'est un homme connu. Mais il n'avait pas exercé de mandat politique. Et donc, quelque part, il apparaît comme un homme nouveau, en tout cas quelqu'un qui est capable de changer les choses pour des gens qui sont un peu désespérés, qui donc, n'ont pas s'identifié à Trump parce qu'il vit dans un monde de richesse et d'opulence kitsch qui n'est pas du tout le leur, mais quelque part, c'est le type qui a réussi, enfin, qui se présente comme le type qui a réussi tout seul, alors que vous savez très bien son histoire est beaucoup plus compliquée et qu'en particulier son père lui a donné pas mal d'argent pour qu'il commence en faisant de l'évasion fiscale. Le New York Times l'a dit il y a quelques semaines. Mais bon, ça ne surprend plus personne. Et de toute façon, Trump est comme Reagan. Reagan, on l'appelait le Teflon President. Vous savez, celui, rien n'accroche. Donc pour son public, à lui, rien n'accroche. Ça ne sert à rien. Il peut avoir un public de bigots évangéliques et lui qui est, bon, un homme qui a eu une vie sexuelle pas du tout orthodoxes de leur point de vue, ça n'a aucune importance, ou bien ils considèrent que c'est des mensonges, ou bien ils considèrent que de toute façon il faut voter pour Trump parce que sinon on a ces horribles démocrates libéraux. Et donc il y a quelque chose comme ça qui fait que son public de fond est un public qui lui est très attaché, mais évidemment il n'est pas majoritaire, il faut qu'il puisse en avoir un peu plus pour être élu, comme ça a été le cas aux élections de 2016. Donc la première catégorie est une catégorie sociale. Des gens qui sont, eux, pas nécessairement des religieux, mais qui sont des gens qui ont vécu des événements et qui sont dans une situation sociale qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme injuste. Et ils ont un type qui apparaît comme le sauveur et qui dit, comme un mécanicien, « I'm gonna fix it », »,« je vais arranger ça », bon, des choses comme ça. Et ils se disent « il va arranger ça ». Bon. Et puis vous avez l'autre partie. Ce sont aussi des oubliés. C'est plutôt les Américains du sud des États-Unis, et du sud-est en particulier, les anciens pays esclavagistes ou ségrégationnistes après l'esclavage. Et ceux-là se disent largués par le train de l'histoire, mais pour d'autres raisons. Ces gens qui peuvent avoir de l'argent, ce n'est pas une question sociale. Mais parce qu'ils considèrent que les valeurs au nom desquelles agissent ceux qui gouvernent, les élites dirigeantes en général, sont des valeurs qui vont dans le mauvais sens, dans le sens du démon. On abandonne la religion, on permet l'avortement, on permet le mariage pour tous. On interdit aux citoyens honnêtes de porter des armes, ou on voudrait interdire aux citoyens honnêtes de porter des armes, etc., etc. On introduit les transgenres. Vous savez que Trump veut légiférer pour décider qu'à la naissance, il y a un genre, un sexe, et puis c'est tout. Et donc, tous ces individus qui, effectivement, se trouvent entre les deux, et pour lesquels il y a eu des tas de controverses sur les toilettes qu'on pouvait utiliser, d'autres choses, etc., ceux-là risquent de se trouver dans une très mauvaise situation. Mais ça fera plaisir à cet électorat de Trump, qui est composé essentiellement d'évangéliques, donc ils sont des protestants, qui sont des protestants très, très, très traditionnalistes, très actifs aussi, et qui forment l'autre partie de l'électorat de Trump. Et eux disent aussi qu'ils sont le peuple. Les premiers dans la Rust Belt disent qu'ils sont le peuple au sens, on dit, populaire. Les pauvres. C'est le peuple. Le vrai peuple. Et d'un autre côté, eux aussi disent qu'ils sont le vrai peuple, pas du tout au sens socio-économique, mais au sens identitaire. Ils disent, c'est nous l'Amérique. C'est l'Amérique, c'est les vieilles valeurs de l'Amérique de nos pères fondateurs. Ce sont des gens qui n'ont jamais accepté véritablement l'égalité des Noirs et des Blancs, le mouvement des droits civiques des années 1960, qui ont été obligés de l'accepter, mais qui ne l'ont pas véritablement accepté. J'ai vécu ça parce que j'ai enseigné, vous l'avez rappelé, j'ai enseigné pendant 25 ans dans une université à Duke, à Durham, en Caroline du Nord, qui est un ancien État esclavagiste, et on voit bien quelle est la situation où les gens ne s'expriment pas tellement parce que c'est mal vu, mais enfin, il y a encore des drapeaux, il y a encore des statues de généraux du Sud, de confédérés, comme on disait, et ceux-là ont un besoin de revanche. Qui peut venir aussi bien de gens qui sont des gens, bon, très honnêtes, mais très religieux, traditionnalistes, et qui ne comprennent pas la libération des mœurs ou l'orientation sociétale des deux côtes, de la côte ouest et de la côte est, ou bien des gens qui sont véritablement nostalgiques d'un ordre en disant, après tout, c'était l'Amérique blanche, chrétienne, protestante, white, anglo-saxon, protestant, wasp, hein, bon, quelque chose comme ça. Alors, c'est du fantasme. D'abord, c'est du fantasme parce que si on remonte aux fondateurs des États-Unis, Jefferson et les autres, ils étaient des hommes des Lumières et bien plus libéraux et ouverts et rationalistes que ne le sont les évangéliques. Enfin, ils se réfèrent à une tradition, qu'elle soit inventée ou pas, ils y croient. Et ces gens-là, effectivement, trouvent en Trump quelqu'un qui va leur donner quelque chose qu'ils désirent ardemment. Et que désirait-il ardemment? Mais c'est qu'on revienne en arrière. Et comment fait-on pour revenir en arrière aux États-Unis? Eh bien, on fait en sorte que la Cour suprême, qui est la gardienne de la Constitution, vous donne les droits que vous demandez, le droit de porter des armes, et refuse aux autres les droits qu'ils demandent ou qu'ils ont déjà obtenus, le droit à l'avortement et des choses comme ça. Parce que c'est très important, comme vous savez, comme dans tout pays, la Constitution, c'est le document juridique fondamental, c'est plus important que les lois ordinaires, et évidemment c'est plus important aussi que les actes de l'exécutif, mais pour que la Constitution soit effective, il faut qu'il y ait des juges qui en soient les gardiens, et qui disent ce qu'est la Constitution, ou ce que dit la Constitution sur un fait qui se passe 200 ans après que cette Constitution a été promulguée, bon on ne l'avait pas prévu, Hein, si vous parlez de la fécondation in vitro, des choses comme ça, bon, bien entendu, tout ce qui est innovation technique, etc., et qui n'était évidemment pas prévu par les pères fondateurs, ben, quelque part, la Cour suprême doit interpréter. Alors, on dit souvent qu'on pourrait, mais après tout, on pourrait changer la Constitution, parce qu'une Constitution, ça se change. Mais on essaye que ce soit plus difficile pour ne pas changer la Constitution, pour des raisons qui sont des raisons de pure politique, au sens où on a la majorité de 50%, et puis on change la Constitution. Puisque la Constitution sont les règles du jeu pour tous, on doit pouvoir y toucher, mais on doit pouvoir y toucher de façon prudente. Et donc, comme là-bas, c'est absolument impossible parce qu'il faut les deux tiers des voix dans une Amérique très clivée, aujourd'hui très divisée, à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, et puis ça doit être ratifié par trois quarts des États, ce ne sont que des amendements, donc des changements à la Constitution tout à fait consensuels qui vont passer, mais pas des amendements qui sont des amendements controversés. Et donc, ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas plus que les démocrates, à changer la Constitution dans un sens qui serait un sens clivant, parce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir une majorité. Et donc, depuis très longtemps, on se dit, mais après tout, si on ne peut pas changer la Constitution, la Cour suprême peut avoir une jurisprudence évolutive. Et les juges de la Cour suprême qui disent ce qu'est la Constitution, ben effectivement, ils acquièrent un pouvoir qui est un pouvoir très fort. Et attention, on dit Trump est peut-être un phénomène passager, mais quand un membre de la Cour suprême est nommé, ils sont 9 les juges de la Cour suprême, il est nommé à vie. Hein? Le dernier, Kavanaugh, il a 53 ans. 53 ans. Vous imaginez le nombre de présidents qui peuvent passer, ou de congrès, dans un pays où il y a des élections tous les 2 ans. Donc le déséquilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs qui change beaucoup, et ces juges à la Cour suprême qui sont là pour très longtemps. Alors, il y en a beaucoup qui ont, heureusement pour certains, trahi les espérances de ceux qui les avaient nommés. Par exemple, Eisenhower avait nommé 2 juges dans les années 50, Warren et Brennan, qu'il considérait comme des juges conservateurs bontins, parce qu'Eisenhower était un conservateur bontin. Ce sont des juges qui, au contraire, sont devenus les juges les plus progressistes, le juge Warren qui a présidé la Cour et le juge Brennan. Et par exemple, c'est grâce à eux qu'il y a, depuis 1973, un droit à l'avortement. Mais l'avortement, la Constitution n'en dit pas un mot. Au moment où cet arrêt est tombé, il y avait des législations différentes, puisque la Constitution ne dit rien, les États, c'est un État fédéral, les États font ce qu'ils veulent. La Constitution ne dit rien sur la peine de mort, ben, il y a des États pour la peine de mort, des États contre, des États qui ont des moratoires, des États qui utilisent certaines substances, etc., etc., les procédures diverses. Si jamais la Constitution disait que la peine de mort était contraire, la Cour suprême disait que la peine de mort était contraire à la Constitution, les exécutions s'arrêteraient tout de suite, bien entendu. Elle ne l'a jamais dit. La majorité ne l'a jamais dit. Mais dans cet arrêt sur l'avortement, elle ne trouve pas l'avortement dans la Constitution. Mais elle dit, bon, l'avortement, le droit de la femme à l'avortement, ou du moins dans les 3 premiers mois, le droit discrétionnaire de la femme à l'avortement, il est lié au droit à la vie privée de la femme. On peut comprendre ce raisonnement, mais le droit à la vie privée ne se trouve pas non plus dans la Constitution. Alors, mais le droit à la vie privée est impliqué par la liberté qui se trouve dans la Constitution. Leave me alone, laissez-moi un espace de liberté, donc quelque part, laissez-moi un espace de vie privée, et l'espace de vie privée implique le droit de la femme à disposer de son propre corps. C'est un raisonnement qui est un raisonnement qui va loin, évidemment. Les conservateurs sont furieux en disant « c'est de l'activisme judiciaire ». C'est pas dans la Constitution, vous dites que... Parce qu'une fois qu'on a dit que c'était dans la Constitution, ça devient un droit constitutionnel, un droit protégé constitutionnel. Du jour au lendemain, toutes ces législations où l'avortement était interdit de différentes manières sont des législations qui ne sont plus applicables. C'est la Constitution qui s'applique puisqu'elle est supérieure. Vous imaginez les enjeux. Il y a eu pour eux. On a interdit, les juges à la Cour suprême ont interdit la prière à l'école. C'est eux qui ont inauguré la déségrégation dans les écoles en disant qu'elle était contre la Constitution, etc., etc. Donc vous imaginez l'enjeu de la Cour suprême. Alors Trump, malgré toutes les frasques de Trump qu'on découvre pendant la campagne électorale, c'est « grab her by the pussy », hein, maintenant il y a des affiches, c'est « grab them by the midterms ». Bon. Hein, les midterms, ce sont les élections de mi-mandat, puisque le président est élu tous les 4 ans et qu'entre les deux, il y a une élection, un renouvellement total de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, et des gouverneurs, etc. Bon. Et des shérifs, enfin, des procureurs, tout ce que vous voulez, c'est des listes très, très, très longues. Bon. Alors, effectivement, c'est un enjeu extraordinaire, puisque ça permet effectivement à un président qui n'est peut-être pas là pour longtemps, en tout cas qui est là au maximum pour 8 ans, parce que ça, c'est dans la Constitution, on espère 4 ans, bon, certains espèrent moins, bon, je ne sais pas, mais ça lui permet, il l'a fait, parce que ses juges, les juges de la Cour suprême sont âgés. Donc, il y avait un juge à la Cour suprême, Scalia, qui était mort avant les élections, un an avant les élections à peu près, au mois de janvier. Les élections ont eu lieu en novembre. Et donc, il n'y avait plus que 8 juges. Et ça, c'est dans... Il faut comprendre les démocrates aujourd'hui, qui parfois exagèrent peut-être un peu. Mais donc, Obama a proposé, il a nommé un juge, Merrick Garland, qui était un juge centriste pour essayer d'être consensuel. Donc le principe, c'est que c'est le président qui propose ou qui nomme et c'est le Sénat qui confirme. Mais si la majorité au Sénat est différente de celle du président, ça pose des problèmes. Or, quand Scalia est mort en janvier 2016, Obama n'avait plus la majorité au Sénat. La Sénat, elle avait été conquise au mid-term par les Républicains, donc vous imaginez. Mais les Républicains ont fait ceci, c'est que pendant un an, ils se sont assis sur la nomination, ils ont refusé d'organiser une audition en se disant « attendons les élections si jamais c'est un républicain », etc. Et que les démocrates ont le sentiment que ce n'est pas normal d'attendre un an, alors que le jeu normal des institutions aurait supposé qu'on auditionne le candidat proposé par le président qui était encore là pour presque un an. Et donc, pour un an, puisque c'était en janvier 2016 et que Trump est entré en fonction en janvier 2017. Et donc là, ils ont l'impression que le président du Sénat ou le leader de la majorité, Mitch McConnell, leur a joué un sale tour. Évidemment, il se venge après. Mais vous voyez l'enjeu. C'est un enjeu extraordinaire. Trump est élu et les choses qu'il a faites, c'est qu'il est arrivé à nommer. Il a remplacé Scalia par un juge très conservateur qui s'appelle Neil Gorsuch, mais comme Scalia était le leader des conservateurs, ça ne changeait pas l'équilibre de la Cour. Il y avait toujours 4 progressistes, 4 conservateurs et un, ce qu'on appelle swing vote, c'est-à-dire le juge Kennedy qui votait de temps en temps avec les uns, de temps en temps avec les autres. Et puis Kennedy, je ne sais pas pourquoi, démissionne et en donnant le temps à Trump avant les midterms de nommer un nouveau juge. Et donc, il y a toute l'affaire Kavanaugh. Il nomme Kavanaugh. On en parlera peut-être tout à l'heure parce que ça pose quand même un certain nombre de problèmes quant à l'état de droit. En fait, toujours est-il que Kavanaugh a été nommé et confirmé. Et Kavanaugh est très, très à droite. Et il ne sera sûrement pas le swing vote. Et donc, les électeurs de Trump, ceux-là, sont ravis. Ils sont ravis, positivement ravis. Parce qu'ils ont maintenant une cour qui a effectivement 5 juges conservateurs et 4 juges libéraux, dont la leader, la juge Ginsburg, on vient de faire un film sur elle, est une dame de 85 ans, malade, et c'est extraordinaire parce que les défenseurs, les gens plus ou moins libéraux qui manifestaient, avaient des pancartes en disant « Justice Ginsburg, please survive ». Oui, parce qu'évidemment, oui, mais c'est ça la difficulté, parce que ça va quand même durer un certain temps. Donc, dans un pays comme celui-là, effectivement, ce qu'un président peut faire, comme le fait Trump, est assez, c'est selon les règles, mais c'est vraiment très problématique. On se pose beaucoup de questions sur cette nomination à vie des juges, qui permet au fond à un président qui est là pour 4 ans ou éventuellement pour 8 ans, d'imposer une marque très partisane pour plusieurs générations de présidents. Et donc ça pose un problème qui est un problème redoutable. Maintenant, ce que je vous ai dit, donc ça satisfait la deuxième partie. Les ouvriers de la Rust Belt, je ne suis pas sûr que ça les intéresse beaucoup. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir du boulot. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils fassent, qu'ils remettent en marche les charbonnages, qu'ils dérégulent, qu'ils enlèvent les régulations, les réglementations écologiques, de façon à permettre à toutes sortes d'entreprises qui n'étaient plus rentables parce qu'on essayait quand même d'obtenir une position qui soit plus favorable à l'environnement et à l'écologie. Bon, ils essaient. Et puis, tout un ensemble de choses qui les intéressent, donc économiques et sociales. Par contre, les évangéliques, ce qui les intéresse, c'est essentiellement les questions sociétales, comme on dit, les questions de valeur, les questions de mode de vie. Et là, effectivement, la nomination des 2 juges à la Cour suprême est pour eux quelque chose de tout à fait formidable. Mais tous deux se réfèrent à une notion de peuple très différente. La notion de peuple, au sens social du terme, des ouvriers de la Rust Belt, ce n'est pas la même que la notion de peuple identitaire qu'est celle des évangéliques. C'est autre chose. L'un, c'est une demande de justice au niveau social et économique, et l'autre, c'est une identité. Nous sommes les vrais Américains, et les vrais Américains sont floués. Alors, évidemment, ça peut se rencontrer, parce qu'il se fait que les ouvriers de la Rust Belt sont en majorité des Blancs, et que donc, comme ils ont l'impression que ceux qui profitent des programmes sociaux sont les minorités, les Noirs, etc., dans les villes, ils peuvent parfois accepter ce discours identitaire, parce que quelque part, ils se disent, c'est un peu comme quand des ouvriers deviennent anti-étrangers, parce qu'ils ont l'impression que les étrangers vont leur prendre leur boulot. Ils n'ont pas une idée identitaire de la nation, simplement ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres gens, parce qu'ils se disent que ça va être mauvais pour eux, parce qu'ils vont prendre des boulots qu'eux auraient pu avoir. Bon, il faut voir si c'est vrai, c'est parfois vrai, c'est parfois pas vrai, etc. Mais on peut comprendre ce type de sentiment. Mais fondamentalement, il y a deux dimensions, dimension sociale et dimension identitaire. C'est très intéressant parce que regardez ce qui se passe en Europe. Regardez ce qui se passe en France, par exemple. Donc, on a vu, on a analysé l'électorat de Marine Le Pen aux élections présidentielles, dernières élections présidentielles, où elle a fait un beau score, hein, puisqu'elle était au deuxième tour. Elle a fait un score qu'elle n'aurait pas fait auparavant. Vous aurez remarqué que Marine Le Pen tient aussi un discours populiste. Hein, le populiste, alors Trump dérape tout le temps dans les assemblées, un petit peu comme Le Pen dérapait, hein, il dérape tout le temps dans les assemblées, et par ailleurs, il tient un discours conservateur, mais enfin, quelque part, il tient pas de propos racistes ou des choses comme ça, encore que, de temps en temps dans ses meetings, et c'est parfois très, très, très brutal. Et Marine Le Pen, par rapport à son père aussi, il y a eu une, ce qu'on a appelé une dédiabolisation. Les populistes jouent là-dessus. Ils veulent pas apparaître comme des fascistes. Et ce ne sont plus des vrais fascistes, sauf que la dimension autoritaire est très présente et que donc la grande question sera de savoir si les institutions vont tenir. Mais regardez l'électorat de Marine Le Pen. Vous avez son électorat du Nord, ça c'était la stratégie de Florian Philippot, maintenant ils sont disputés, il n'est plus au Front National devenu Rassemblement National. Ces ouvriers du Nord, ils les ont captés. C'était des gens qui votaient communistes, c'était des banlieues communistes. Tous ces gens-là votent pour le Front National. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen tient à peu près le même discours sur les oubliés que Trump a tenu aux ouvriers de la Rust Belt. Donc vous avez le nord de la France. Bon. Mais vous avez l'autre électorat traditionnel du Front National. C'est un électorat un peu, pas tellement nouveau, mais massivement quand même. C'est pas dans les gènes de Jean-Marie Le Pen qui ne tenait pas un discours social plus ou moins à gauche. C'est l'électorat du Sud, l'électorat de la Méditerranée. Beaucoup de gens du Front National, là, autour de Cannes, Nice, etc., qui ne sont pas des gens pauvres, mais qui, eux, sont identitaires au sens la France catholique, les vieilles valeurs et des choses comme ça. Et eux votent Le Pen pour des raisons qui sont des raisons très différentes, parce qu'ils ont l'idée que le peuple français est authentique. Alors, aux États-Unis, c'est le peuple évangélique, ici, c'est le peuple catholique, traditionnaliste, etc., a été privé de ses droits et qu'ils sont envahis et que, quelque part, ils votent pour le Front National qui va arranger tout ça en fermant les frontières. Alors, d'une certaine façon, vous avez de nouveau, c'est comme ça que le populisme arrive à, par cette confusion, que le populisme arrive à avoir un électorat suffisant. Donc, vous avez la Rust Belt plus le Sud aux États-Unis, vous avez le Nord plus le Sud aussi en France. Regardez l'Italie. Regardez l'Italie, c'est étonnant. D'ailleurs, ça s'est manifesté dans un conflit qui a eu lieu au sein du gouvernement actuel. Donc, vous savez que le mouvement 5 étoiles et la Ligue, anciennement Ligue du Nord, la Ligue dont le leader est le ministre de l'Intérieur actuel, Salvini, ils ont gagné les élections. Et qu'en gagnant les élections, ils se sont mis ensemble pour avoir la majorité, puisqu'ils ont gagné les élections. Simplement, ils visaient des publics extrêmement différents. Le mouvement 5 étoiles n'est pas nationaliste, n'est pas l'Italie. Il a beaucoup d'électeurs dans le sud du pays. Il joue sur la corde sociale. Il veut un revenu universel qu'on puisse donner à tous. Ça coûte cher, tout ça. Bon. La Ligue, au contraire, est très identitaire, nordiste. Vous avez la Padanie, on n'a rien à faire avec le sud de l'Italie. Il voudrait bien être indépendant, un peu comme la Flandre, hein, un peu comme la Catalogne. C'est les minorités riches. La Slovénie, c'était le cas dans l'ex-Yougoslavie. Et donc ces deux peuples, ou ces deux références au peuple qui sont souvent très contradictoires, ils sont mis ensemble et voilà, ces populistes sont au pouvoir. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans le Nord, c'est non seulement identitaire et c'est aussi les petits patrons, etc. Donc Salvini a proposé une diminution d'impôts et le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo a proposé le revenu universel. Donc on donne un revenu inconditionnel, hein, ça c'est les versions les plus radicales, à tout le monde. Hein. Et évidemment, ça coûte de l'argent, au moins dans un premier temps. On peut dire qu'après, peut-être, ça peut remplacer d'autres allocations sociales, mais dans l'immédiat, bien sûr que ça coûte de l'argent. Alors bon, il faut pas, si vous diminuez les impôts et que vous voulez faire plus de dépenses, ben, vous augmentez votre déficit. Et le déficit italien n'était pas, le déficit budgétaire n'était pas terrible, c'est surtout la dette publique, mais évidemment ça augmente la dette publique au fur et à mesure, parce qu'il faut rembourser les intérêts, et donc évidemment la Commission européenne n'est pas contente, donc il dit l'Europe nous empêche de faire ce que nous voulons faire, et donc il y a cette espèce de tension entre une Europe peut-être trop rigide, et d'autre part une Italie dans laquelle ils se disent qu'ils vont gagner des voix avec leur démagogie, et que si leurs démagogies sont contradictoires, l'un veut moins d'impôts et l'autre veut faire des dépenses, et bon, on va faire les deux. Et faire les deux, c'est les générations suivantes qui vont payer, bien entendu. Mais c'est effectivement ces deux dimensions. Parce que le peuple auquel se réfère Salvini, c'est pas le même que le peuple auquel se réfèrent les grillinistes. Vous avez... ça se passe des choses comme ça dans beaucoup de pays. C'est en Hongrie aussi. En Hongrie aussi, vous avez... Orban se base sur une dimension identitaire. Vous savez, les Hongrois les plus conservateurs n'ont toujours pas avalé la diminution de la Hongrie après la chute de l'Autriche-Hongrie, après la Première Guerre mondiale. Bon, la Hongrie... co-gérait l'Austro-Hongrie depuis 1867 avec les Autrichiens, donc ils géraient les Slaves en fait, hein, bon, et ils avaient effectivement un très grand pouvoir, même si c'était quand même les Autrichiens, c'était quand même Vienne qui gardait plus de pouvoir et donc il y avait beaucoup de tensions. Après 1918, la Hongrie, c'est la petite Hongrie qu'on connaît aujourd'hui. Et comme c'est une petite Hongrie, il y a plein de minorités hongroises dans les pays avoisinants, en Roumanie, en Voïvodine, c'est-à-dire le nord de la Serbie, en Slovaquie, même en Ukraine, bon. Et donc, effectivement, il fait appel au sentiment de l'appartenance au peuple hongrois au sens ethnique du terme. Il leur a donné des cartes d'identité. Donc, il a donné, ce n'était pas très légal, des cartes d'identité... à des Hongrois qui vivent par exemple en Roumanie ou en Slovaquie, donc qui théoriquement leur donneraient certains droits. Bon, ça a créé évidemment tout un... On ne sait pas très très bien ce que ça va donner, mais on voit la dimension, c'est les Hongrois au sens ethnique, identitaire, linguistique. Hein? Et puis évidemment, comme chaque fois que le pays est en crise ou qu'il y a des régions qui sont des régions déprimées, bah, il fait appel aussi à la dimension, à la fibre populiste. Et comme ces populistes parlent un langage extrêmement clair et disent ce que les autres ne disent jamais, et effectivement sont confrontés à une situation qui n'est pas très très bonne, eh bien on se trouve confronté à une montée en puissance de ces populistes. Alors on va dire, oui mais enfin après tout, ils montent en puissance, ils arrivent au pouvoir, on voit quel est leur électorat, on voit la dimension des deux peuples, des deux types de peuples auxquels ils se réfèrent et qu'ils confondent. Il faut aussi penser à l'adversaire. L'adversaire, c'est les élites. Et pour les élites, ils font le même type de travail. Ils font le même type de travail, c'est-à-dire que, en fait, il y a une confusion entre deux sortes d'élites qu'ils attaquent. Et si on ne comprend pas ça... Attendez, parce que... Si on ne comprend pas ça, on ne voit pas bien ce qu'est le combat des leaders populistes et de leurs partisans. Alors, vous prenez Trump, vous prenez Marine Le Pen, vous prenez Orban, vous prenez le Premier ministre polonais, ou Kaczynski, qui est le véritable patron, vous prenez même le Premier ministre autrichien, etc. Ils attaquent les élites corrompues, corrupt elites, qui, justement, ont détourné le pouvoir qui doit appartenir au peuple. Autrement, il y a dit à l'idée en démocratie que ceux qui exercent des fonctions importantes, d'intérêt général, eh bien, ne le font pas. Soit par incompétence, ils n'arrivent pas au but pour lequel on les a soit élus, soit nommés, puisqu'il y a des élus, il y a des gens qui ont été nommés sur diplôme, tout ce qu'on veut, hein. Soit, ce qui est encore pire, ils sont corrompus, c'est-à-dire qu'en plus d'être incompétents, ils se sucrent eux-mêmes au détriment du bien public. C'est pas la même chose, n'est-ce pas ? C'est pas du tout la même chose. Ce qu'on reprochait à François Hollande, c'est-à-dire de ne pas être arrivé à limiter le chômage, on disait, il n'est pas capable de le faire, il n'y arrive pas, personne n'a dit qu'il était malhonnête. Par contre, évidemment, quand vous avez des affaires comme les affaires Fillon ou comme l'affaire Cahuzac, là, vous vous dites, ce sont des individus qui sont malhonnêtes. Donc des élites incompétentes ou des élites corrompues, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, on peut cumuler. Oui. Puisque vous riez un peu, j'en profite pour boire un peu. Bon. Hein? Et donc, vous avez cette attaque des élites. Alors, bon, quand Trump parlait de Hillary Clinton, je ne faisais pas le détail, il disait « corrupt and incompetent elites », donc c'était les deux. Il disait que c'était un désastre, et en plus que les Clinton étaient corrompus, leur fondation, l'affaire des emails, enfin tout un ensemble de choses, etc. Bon. Et il parlait de ce qu'on dit aux États-Unis « inside the Beltway ». Le Beltway, c'est le ring autour de Washington, D.C. Et bon, c'est l'idée de l'Amérique extérieure qu'il dit, c'est les prétendues élites qui gèrent le pays « inside the Beltway », c'est pas positif. Et donc, il s'attaquait à ces élites, et c'est pour ça qu'il a dit, le jour de son inauguration, qu'il a bien dit, il ne s'agit pas d'une transition d'une élite à une autre, même de mon parti, puisque c'est le républicain qui avait gagné, il s'agit, dit-il, de rendre le pouvoir au peuple. Donc, il s'attaque à des élites qui ne font pas leur boulot ou qui sont corrompues. On vit quand même en Belgique. Je veux dire, quand on a des affaires comme Publifine ou le SAMU social ou d'autres choses comme ça, c'est un boulevard pour les populistes. Mais on peut pas, ils ont raison. Ils n'ont pas raison dans les conséquences qu'ils en tirent, dans la démagogie, etc. Mais ils ont fondamentalement raison. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Et donc, quelque part, l'attaque que le populiste fait contre les élites corrompues, c'est pas mal parce que ça peut permettre à nos élites démocratiques de se rénover et de gouverner autrement parce qu'elles subissent la pression. Donc ça, c'est plutôt potentiellement une bonne chose. Donc, quand ils s'attaquent à des élites qui sont de mauvaises élites, qui ne font pas leur boulot, bon, ils exagèrent sans doute, mais quelque part, ça peut créer un certain type de sursaut au sein des élites. Maintenant, il y a d'autres élites qui sont les buts et qui sont vraiment l'objet de toutes les attaques des populistes, et ce sont des élites qui sont attaquées exactement le contraire, non pas parce qu'elles ne font pas bien leur boulot, parce qu'elles le font trop bien. Les juges, la presse, les universités, comme productrices de faits bien établis, disons, hein, on peut dire, qui gênent évidemment le leader qui veut dire n'importe quoi. La presse et les juges, c'est absolument général de la part des populistes. Hein. Et de ce point de vue-là, ce qui est arrivé récemment, j'en parle encore parce que c'était tellement grotesque, mais enfin bon, Mélenchon est un populiste de gauche. Bon, il n'y a pas la dimension identitaire, mais il y a cette idée, effectivement, de s'en prendre à la justice, parce que, bien entendu, la justice est manipulée politiquement, et donc l'indépendance des juges est quelque chose qu'ils admettent difficilement. Or, c'est très très important. C'est très important parce que, à quoi elles servent ces élites-là, les bonnes élites qu'attaquent les populistes? Les mauvaises, on est d'accord, ils peuvent les attaquer. Il faut toujours faire attention quand ils attaquent parce qu'ils ont un discours toujours exagéré, souvent injuste, etc. Mais il y a quelque chose comme ça, il y a du grain à moudre. Bon. Mais leur attaque contre les bonnes élites, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appelé cette conférence, je ne sais même plus comment je l'ai appelée, bon, enfin, le populisme de Trump, le populisme... Voilà, c'est la chose dont je ne me souviens pas, effectivement, parce que je ne suis jamais capable de dire deux fois la même chose, donc j'oublie le titre. Le populisme, Trump, le populisme et les dangers pour la démocratie libérale, quelque chose comme ça? Non, je ne veux pas vous tromper sur la marchandise, quand même. Hein. Bon, donc c'est ça. J'ai bien dit démocratie libérale. Hein. Bon, pas libérale au sens d'un parti libéral, mais au sens où la démocratie libérale, c'est une démocratie qui garantit les libertés fondamentales. Ça veut dire que ce n'est pas le simple pouvoir des majorités, parce que les majorités peuvent décider que 2 plus 2 égale 5, Ce n'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a raison, ce n'est pas non plus parce qu'on est minoritaire qu'on a raison, mais dans les pays démocratiques, de démocratie libérale, il existe des constitutions, et de plus en plus ces constitutions sont gardées par des juges, donc elles ont un véritable pouvoir, des juges qui peuvent annuler des mesures ou des législations, c'est quand même important. Et cette idée est que dans les constitutions se trouvent bon, l'organisation des pouvoirs, etc., mais aussi les grandes libertés, aussi la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire cette idée que les juges doivent être indépendants des pressions possibles de l'exécutif et du législatif, et de n'importe qui d'ailleurs. Tout ça est très important, avec cette idée qu'on vit dans un état de droit. Et un état de droit, c'est un état dans lequel le droit s'impose, bien entendu, aux gouvernés, ça c'est toujours le cas, même dans les dictatures, mais s'impose aussi aux gouvernants. Et que personne n'est au-dessus de la loi. Et que c'est the rule of law, comme disent les anglo-saxons, le règne du droit, le gouvernement du droit. Bien sûr qu'il y a des personnes, des individus, des humains, mais que tous sont soumis au droit. Qu'on peut évidemment transformer les règles, mais comme vous l'avez savez, c'est pas facile. Les constitutions qui gardent les grandes libertés, etc., c'est difficile de les modifier, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour le reste, il faut avoir une majorité démocratique pour changer une loi. Mais tant qu'elles sont en vigueur, elles s'imposent à tous, aux puissants et aux faibles en général, mais aux gouvernants, qui sont en général puissants, puisqu'ils ont pour eux la force de l'État, et aux gouvernés. Et donc, dès que le populiste arrive au pouvoir avec son idée de tout arranger, I'm gonna fix it, et de tout changer, ça arrive partout, il se trouve confronté à des juges qui, soit des juges constitutionnels, s'ils légifèrent dans un sens que les juges considèrent comme contraire à la Constitution, mais évidemment, si maintenant tous ces juges constitutionnels au sommet sont des juges trumpiens, vous voyez ce que ça peut poser comme problème. C'est-à-dire que cet état de droit dans lequel le droit s'impose aussi aux gouvernants, si ce droit est gardé par une Cour suprême qui est le miroir des gouvernants, vous n'aurez plus de contrôle. Parce que Kavanaugh, il doit beaucoup à Trump, et Gorsuch peut-être un peu moins parce qu'il n'a pas eu la même controverse. Et les autres, les juges conservateurs à la Cour suprême, ils n'attendaient que ça, d'avoir leur majorité. Et donc, quelque part, l'état de droit est en danger dans la mesure où la justice est moins indépendante. Et ça n'est pas simplement pour les juges constitutionnels, c'est n'importe quel juge. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il a voulu empêcher un certain nombre d'individus venant de certains pays d'entrer aux États-Unis au titre de l'asile, au titre de l'immigration, etc. Et un certain nombre de juges ont considéré que c'était illégal, voire inconstitutionnel quand il disait qu'il voulait cibler uniquement les musulmans. Et donc, en tout cas, ça n'a pas encore été jusqu'à la Cour suprême. On ne sait pas ce qui va se passer, évidemment. Mais toujours est-il que Trump a fulminé contre ces soi-disant juges. Parce qu'il l'empêchait d'appliquer son programme alors qu'il ne faisait que défendre le système de la démocratie libérale ou constitutionnelle. Alors le populiste a une vue simplifiée du peuple, il a une vue simplifiée des élites, il a aussi une vue simplifiée de la démocratie. En disant la démocratie, la majorité. J'ai eu la majorité et maintenant je fais ce que je veux. Non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Nos démocraties, sont des systèmes très bien appelés aux États-Unis de checks and balances, de contrôle, de frein et d'équilibre entre pouvoirs, pour éviter, ça date de Montesquieu, pour éviter qu'un pouvoir n'abuse de ses prérogatives. Et donc évidemment, vous êtes élu président des États-Unis, l'exécutif est limité parce qu'il ne peut pas dissoudre le Congrès, parce qu'il y a des juges, parce que, etc., etc. Le leader populiste, en général, a beaucoup de ressentiment vis-à-vis de ça. La première chose qu'il essaye de faire, c'est de porter atteinte à l'indépendance des juges. Hongrie. Alors Hongrie, voilà un exemple. Évidemment, ce n'est pas un système fédéral comme les États-Unis. En Hongrie, pour changer la Constitution, il faut une majorité des deux tiers. C'est déjà beaucoup. Orban l'a eu par deux fois. Aux États-Unis, il faut la majorité des deux tiers, il faut en plus trois quarts d'États qui ratifient, ça c'est vraiment très difficile. Mais il a eu sa majorité des deux tiers deux fois, il a modifié la Constitution, il a affaibli le pouvoir des juges, vous savez, ça se fait dans les nominations. En Pologne, le pouvoir a délibérément mis à la retraite à 65 ans un certain nombre de juges qui étaient des juges indépendants, et évidemment ils ont été, et ils vont être remplacés par des gens qui sont des affidés, puisque les processus de nomination sont des processus qui sont de plus en plus, je ne dirais pas à la discrétion, mais enfin quand même sous la pression de l'exécutif, ou de sa majorité parlementaire, puisque la majorité des deux tiers, c'est la même chose. La première chose qu'ils font, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Pologne, en Pologne, ils n'ont pas la majorité des deux tiers, mais ils ont changé la loi, ils ont, par exemple, ils ont effectivement changé l'âge de la retraite des juges, mais dans un but tout à fait politique et partisan. Et vous savez, c'est entré en vigueur l'été passé. Et alors, il y a la présidente du tribunal qui a décidé, je ne sais plus si elle le fait encore, de venir chaque matin à son bureau. Alors qu'elle, théoriquement, elle n'est plus en place. Ce qu'elle dit, selon la Constitution, j'ai été nommée pour 6 ans et mes 6 ans ne sont pas terminés. Bon, alors, il pourrait changer la Constitution sur ce point, mais comme les Polonais n'ont pas la majorité des deux tiers, bon, elle essaye de jouer là-dessus. N'empêche que, bon, effectivement, on se trouve confronté à ça. La presse, c'est la première lieu des attaques et d'ailleurs des tentatives. Aux États-Unis, c'est plus difficile, mais en Hongrie, en Pologne, la main mise sur les médias, vous savez, donc la main mise sur les médias publics, et puis de faire racheter les médias privés par des amis ou par des gens du pouvoir, etc., de façon à avoir des médias qui ne soient pas des empêcheurs de danser en rond. C'est un des buts fondamentaux. Et ils attaquent donc ces élites, les journalistes, les universitaires, les juges, etc. Mais là, ce sont des attaques contre les bonnes élites. Il faut bien savoir ça. Il faut bien savoir que le populisme, dans ses attaques, il confond allègrement les mauvaises élites, et ils amalgament d'ailleurs dans les mauvaises élites les incompétents et les corrompus, avec les bonnes élites, c'est-à-dire les juges, les journalistes. Regardez les adversaires de Trump, pour lui. Bon, c'est le New York Times et CNN. C'est beaucoup d'autres, mais enfin, eux sont les plus puissants. Le New York Times et CNN font tous les deux un boulot remarquable. Remarquable. Hein, si vous avez suivi toutes ces émissions. Alors, c'est vrai qu'on dit, oui, mais ce sont des journaux, ils sont contre Trump. Non, c'est-à-dire, s'ils ont un certain nombre de critères quant à ce que l'on fait quand on est un président des États-Unis, quant à la véracité de ce qu'on dit, parce que le rôle des journalistes est aussi de contrôler ce que les hommes politiques prétendent, etc., bon, ben, ils font leur boulot. Effectivement, avec Trump, c'est rarement positif. La presse est attaquée par lui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce renversement presque infantile dans lequel il dit, au fond, oui, ce sont des fake news. Hein, quand il fait ses meetings, il y a une journaliste de CNN, c'est difficile dans ces foules-là, hein, parce qu'il y a de la violence. Hein. Alors, il dit « you fake news ». Mais les fake news, donc, ce ne sont pas simplement des nouvelles fausses, ce sont des informations qui sont de fausses informations, mais répandues scientifiquement avec tous les moyens technologiques pour faire en sorte que ça ressemble à des informations réelles, mais dont les gens sont assommés de partout, alors qu'ils croient, comme on avait cru qu'on a dit quelques jours avant l'élection présidentielle française, que la campagne de Macron était subventionnée au tiers par l'Arabie Saoudite. Tiers ou à la moitié, aujourd'hui ce sera encore pire. On devait quand même le savoir à l'époque. Mais bon, ce n'était pas vrai, ça aurait évidemment posé problème. Ce n'était pas vrai, simplement les gens le croyaient, parce que c'était venu de tellement de sources différentes, et les gens s'informent de façon tellement paresseuse. Ils ont une facilité énorme à regarder immédiatement l'information comme ça, mais ces informations ne sont pas contrôlées sur les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, il y a un danger de fake news. Et donc, Trump, tranquillement, renverse l'accusation. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important. C'est extrêmement important parce que si vous n'avez pas ce pouvoir de la presse qui permet de dire des choses que les gouvernants n'ont pas nécessairement envie de dire, ben, la démocratie libérale constitutionnelle, elle est en danger. Elle est aussi bien en danger quand les juges sont mis sur le côté que quand la presse est attaquée. Et ça, ce sont des éléments qui sont des éléments tout à fait fondamentaux. Voilà.
Vous venez d'entendre une conférence qui avait pour titre « Trump, le populisme et l'avenir des démocraties libérales ». Elle était donnée par Guy Archer, professeur émérite de l'ULB et philosophe. Cette conférence se développait dans le cadre des activités du CEPULB, l'Université Interâge de l'ULB.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1. Thank you.